Monsieur Émeric Choprade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopoliticien français et directeur du site internet realpolitik.tv et vous avez exprimé il y a 2 jours un article proposant une solution de paix pour l'Ukraine fondée sur une séparation, pour ne pas dire une fracture. Alors la question qu'on a envie de vous poser évidemment c'est est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est opportun et est-ce que surtout ça ne risque pas de provoquer une guerre civile?
Donc j'ai surtout proposé une analyse de géopolitique en rapport avec les évolutions politiques de l'Ukraine. Et ce que je dis, c'est que au fond, les crises auxquelles on assiste depuis longtemps maintenant, puisqu'il y a eu déjà des crises, une crise en 2004, sont des crises qui ne sont pas seulement politiques, qui ne sont pas liées au dysfonctionnement du régime politique. Ce sont des crises qui sont de nature géopolitique parce que l'Ukraine a une unité nationale qui n'est absolument pas assurée, qu'il y a des tropismes différents, un vers l'ouest, un vers l'est, des populations ukrainophones et des populations russophones, et que cette fracture identitaire de l'Ukraine, elle empêche la réalisation d'une véritable unité nationale et donc d'un accord, d'un consensus politique. Par conséquent, je pense qu'il n'y a aucune solution viable aujourd'hui autre qu'une forme de sécession ou de confédération à l'intérieur de l'Ukraine avec une autonomie forte pour les populations russophones qui sont très importantes et pour les populations de l'Ouest. Bien évidemment, cette solution, elle n'est pas simple à mettre en œuvre parce que la question, c'est qui la met en œuvre, qui a la légitimité pour le faire, comment on trace la ligne de séparation. Parce que, évidemment, certaines provinces, les séparations sont plus que floues entre les populations. Et par conséquent, dès lors qu'on veut redisposer une population, on s'expose à des risques. Donc, je suis absolument conscient qu'il n'y a pas de solution simple. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucune solution politique durable, on le voit bien, en Ukraine, dans les frontières actuelles et dans la disposition actuelle de l'Ukraine.
Alors, évidemment, la solution confédérale parle aux auditeurs suisses. Maintenant, est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce qu'on a déjà des modèles similaires dans d'autres républiques de la région? Éventuellement peut-être la Russie, mais on sait bien que c'est quand même toujours là, un pouvoir central qui domine. Est-ce que finalement la fracture n'est pas l'issue la plus proche?
Moi, je crois que la solution la plus réaliste, c'est celle-ci, c'est celle de la fracture. Mais il faut que la Russie et que l'Union européenne, avec les Ukrainiens, bien sûr, de l'Ouest et de l'Est, du centre, s'entendent pour cela. Et ce n'est pas simple, mais c'est la seule solution viable. Il y a des modèles, hein, de confédération. Il y en a un qui marche pas très bien, récent, c'est la Bosnie, effectivement, avec une fédération croato-musulmane et puis et les Serbes de Bosnie. Ça fonctionne pas très bien. Mais quand on a du mal à mettre d'accord les gens, la seule solution, c'est de leur redonner une autonomie à chacun assez forte. Voilà. Il y a ce modèle-là, et puis il y a le modèle du rattachement de toute la partie russophone à la Russie, qui est une autre option, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, l'Union européenne devra assumer le fait d'avoir une Ukraine finalement pauvre à sa porte, une partie ouest assez pauvre, qui ne possède pas les conglomérats économiques à sa porte. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on n'est plus dans les solutions idéales. Il n'y a plus de solution idéale. Maintenant, il faut chercher le moindre mal. Et le moindre mal, c'est déjà qu'il n'y ait pas de guerre civile et que les gens ne se massacrent pas. Et ce risque existe aujourd'hui parce qu'il y a des armes, tout simplement, à l'ouest comme à l'est, et que donc les populations peuvent s'armer. Il est certain que la Russie ne laissera pas sa population russophone exposée à un risque de massacre, parce qu'il y a des bandes violentes aujourd'hui, notamment du côté de Svoboda, qui peuvent menacer ces populations. Elle ne laissera pas ces populations exposées, et donc il est évident que la Russie va sécuriser sa population. De quelle manière, je ne sais pas. On ne peut pas exclure une intervention militaire, effectivement, visant à sécuriser la population russophone. Et n'oublions pas que pour ce qui concerne la Crimée, qui est historiquement une région russe, pour le coup, vraiment russe, là, je pense que la Russie, pour des raisons plus stratégiques, n'hésitera pas une seconde à aller plus loin qu'elle ne le fait aujourd'hui, parce qu'elle est restée finalement, par rapport aux enjeux stratégiques qui sont ceux de l'Ukraine, et par rapport au risque d'otanisation de l'Ukraine, la Russie est restée, a observé une certaine réserve dans cette situation pour l'instant. Mais je ne suis pas certain qu'elle continue à observer cette réserve.
Parce que, je veux dire, le processus de libération entre guillemets de l'Ukraine qu'on vient de connaître ressemble comme deux gouttes d'eau à tout ce qu'on a connu en Yougoslavie, sur le croissant méditerranéen, ce qu'on a tenté de faire en Syrie. Je veux dire, est-ce que ça ne découle pas d'une logique de subversion qui ne s'accommodera pas d'une séparation à l'amiable? Est-ce que c'est finalement pas l'Occident qui va attaquer quelque part?
Moi, ce que je dis depuis longtemps, je dis qu'en tout cas, la scénarisation manichéenne de ces conflits, que ce soit pour la Syrie, pour l'Ukraine ou ce qu'on a connu en Libye, c'est évidemment un leurre, un mythe, et c'est un mythe dangereux parce que ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a effectivement une fragilité de ces États-nations qui sont souvent partagées dans des communautés différentes avec des tropismes différents, c'est-à-dire que ces populations regardent dans des directions différentes et que cette malfaçon en termes d'identité nationale se combine avec des calculs stratégiques qui sont ceux en particulier des États-Unis. Et s'agissant de l'Ukraine, il y a une volonté des États-Unis d'otaniser l'Ukraine depuis longtemps. Il suffit de lire Brzezinski, mais pas seulement, pour comprendre que dans l'échiquier américain eurasiatique, l'Ukraine est considérée comme un pivot stratégique qu'il faut faire basculer. Et si l'Ukraine bascule dans l'OTAN, cela représente un affaiblissement stratégique majeur de la Russie, et donc c'est au profit, à mettre au profit des États-Unis. Par conséquent, ce qui se passe, c'est la répétition des révolutions, de la révolution colorée 2004, de la tentative aussi en Géorgie en 2003. C'est la volonté de faire basculer toutes ces anciennes provinces de l'Empire soviétique et qui sont aujourd'hui dans l'étranger proche, ce qu'on appelle l'étranger proche de la Russie, c'est-à-dire sa marche stratégique qu'elle doit protéger pour maintenir son influence. Eh bien, ce jeu-là, il est évidemment, on joue avec le feu quand on fait ça, et quand l'Union européenne accompagne ce calcul américain, quand les Allemands également ont quelques calculs dans le jeu, eh bien tout ça produit, réveille fortement la Russie et peut être parfaitement belligérenne, malheureusement.
Justement, vous parliez de la Géorgie, la Russie est intervenue assez directement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire le premier pas de la Troisième Guerre mondiale?
Alors, sans aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale, il faut espérer que chacun puisse raison garder dans cette affaire et que ça prenne pas des proportions gigantesques. Mais il est évident que c'est une agression. Ce qui se passe est une agression stratégique de la Russie. Et la Russie risque en effet de réagir en conséquence. Ça n'est pas la Russie qui a déstabilisé l'Ukraine. Il y avait une élection. Une élection, le président Yanukovych, avec toutes ses limites et toutes les critiques qu'on peut lui faire, et ces critiques sont légitimes, je ne défends pas le bilan de Yanukovych, mais de fait était un président élu légalement, les observateurs de l'OSCE l'avaient reconnu, et donc que l'Union européenne ait cautionné clairement un coup d'État, ben c'est quelque chose qui est évidemment interprété par la Russie comme le fait qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de droit, il y a la loi du plus fort. Et ce signal qui a été envoyé, il risque d'être un facteur déclenchant de tensions très fortes autour de l'Ukraine entre la Russie, les États-Unis et les pays qui ont choisi de s'aligner sur la politique américaine, à mon avis, à tort.
Émeric Choprade, directeur de realpolitik.tv, nous vous remercions.
Merci.